Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous vous êtes occupés de vous et que vous avez regardé du divertissement, écouté de la musique, cueilli des fleurs, que vous avez fait du vélo, que vous vous êtes baladé, que vous vous êtes occupé de votre famille en dînant, en déjeunant, que vous avez joué avec vos enfants, car c'est vrai que lorsqu'on écoute l'actualité, il y a de quoi être un peu angoissé. Au Qatar, 160 avions décolleront et atterriront par jour. Les amoureux ne pourront pas s'embrasser. Les homosexuels seront interdits de territoire sous peine de prison, donc carrément. Et pendant que Kadyrov envoie, le président tchétchène envoie ses adolescents dans les tranchées, eh bien, Kadyrov, vous savez, c'est le pantin de Poutine, président, si on peut appeler un président comme celui-là, le pantin de Poutine qui envoie les 16 ans faire la guerre. Ça va, tout va bien. Et en France, on peut aller habiller en classe, habillé en cabis. Tout va bien. Il y a de quoi avoir le moral à Z, chers amis, et de sentir notre tête tourner sans que nous l'ayons, envisagé une seconde ou que finalement on nous l'a fait tourner tout seul, cette tête. Il est vrai que écouter les infos et regarder les infos, ça devient de plus en plus dur. Mais écoutez, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Nous allons parler de vous, uniquement de vous, de votre vie au quotidien et c'est là que tout se passe, c'est là qu'est votre réalité et on va essayer de vous écouter du mieux possible. 39,21, 50 centimes d'euros la minute, vous nous écrivez vos SMS au 739-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules suivi d'un espace, vous écrivez vos mails à libreantenne@europe1.fr et puis vous écrivez en privé à Julia et à Florian vos mails sur notre page Facebook Yann Moix, Olivier Delacroix, la Libre Antenne. Voilà, votre Libre Antenne du lundi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons au 39-21 Véronique. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous ?
Je vais bien.
Bon.
Je vais bien, mais je ne sais pas si je vais apporter beaucoup de jovialité après tout ce que vous avez dit.
Bah écoutez, on restera dans le ton au moins.
Oui.
Vous nous appelez d'où, Véronique ?
J'habite à Montauban.
Montauban, d'accord. Et quel âge avez-vous ?
J'ai 67 ans.
D'accord. De quoi allez-vous nous parler, Véronique ?
Alors, je vais vous parler de l'adoption internationale et comment l'adoption internationale peut tourner au trafic d'enfants.
D'accord. Vous avez adopté vous-même ?
Oui.
D'accord. Et ça s'est passé comment ? Dites-moi. Alors, même dans quelles circonstances vous avez été amené à adopter ?
Alors, il faut remonter en 84. Et en 1984, nous avons déjà deux enfants. Et ces deux enfants ont 11 ans, 9 ans. Moi, j'ai juste 29 ans. Et on a envie d'un troisième enfant. Voilà, c'est tout simple.
D'accord.
Et puis, ce qui n'est pas simple, c'est que j'ai été très malade. Et qu'on ne peut pas trop envisager de faire cet enfant nous-mêmes. Mais qu'on se dit, on va l'adopter. Voilà, ce n'était pas... C'était pas par défaut. Ça correspondait aussi à un choix qui nous convenait.
D'accord. Donc, comment vous y êtes-vous pris ? Vous avez choisi une région. Comment s'oriente-t-on pour faire ce type d'adoption ?
Oui. Alors, nous, on était très, très préoccupés par le trafic, justement. Hein. C'est ça qui est assez incroyable. Et on savait que l'Amérique du Sud... était une région où on commençait, les journalistes commençaient à se faire, à quand même beaucoup relater des problèmes de trafic d'enfants. Donc on s'est dit, il faut éviter l'Amérique du Sud. Les sommes demandées étaient énormes aussi, et nous, on n'avait pas cette somme d'argent. Voilà.
Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, d'histoire en Amérique du Sud. Et à l'époque, beaucoup d'associations françaises de très bonne foi se sont fait escroquer. D'ailleurs, des Français qui étaient de très bonne foi, mais qui finalement accueillaient des enfants qui avaient été enlevés à leurs parents.
Oui. Donc voilà, on a éliminé l'Amérique du Sud pour ces raisons. Et puis, vous savez, ça se passe souvent par le bouche à oreille. Donc, on en parle autour de soi. On habitait la région grenobloise à l'époque. Et là, on me dit, au Sri Lanka, c'est possible. Et là, on connaît des parents qui en reviennent. Voilà, ça se passe comme ça. On passe un coup de fil et on vous donne des coordonnées d'un intermédiaire sur place. D'accord. C'est comme ça que... voilà. Mais après, là, ça peut paraître un peu sauvage comme méthode, mais après, on fait tout dans la légalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on me dit il y a une possibilité pour adopter un enfant au Sri Lanka, là, on remplit tous les dossiers auprès de l'ambassade du Sri Lanka. D'accord. Et auprès de la DAS.
C'est ça que j'allais vous demander. Quelles sont les contraintes que la France vous demande lorsque vous devez aller adopter un enfant comme ça? Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques?
Oui, bien sûr. Oui. On remplit un dossier auprès de la DAS, et c'est ce qui s'appelle obtenir un agrément. Et alors, à l'époque, c'était effectivement plus simple que maintenant, mais on passe quand même devant un psychiatre, l'assistante sociale vient à la maison, il y a des visites médicales, enfin, vous voyez, toutes sortes, enfin, on remplit le dossier en bonne et due forme. Et comme on fait une adoption à l'étranger, ce dossier, on va le faire viser par le ministère des Relations extérieures. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Maintenant, c'est les affaires étrangères, mais c'était les relations extérieures dans les années 80. Et notre dossier est tamponné, certifié par le ministère des Relations extérieures.
D'accord. Donc, ce contact que vous avez au Sri Lanka, c'est quoi? C'est une association ou c'est un organisme d'adoption officiel là-bas, sur place?
Non, c'est le nom d'une dame.
C'est
qui s'appelle Madame Pereira.
D'accord.
Et on me la présente comme la directrice d'un orphelinat. D'accord. Et moi, j'ai toujours cru que c'était la directrice d'un orphelinat pendant 33 ans.
D'accord. Vous êtes rendu au Sri Lanka.
Voilà. Et... donc, on part au Sri Lanka. Une fois que nos papiers sont faits en France et que tout est visé, Madame Pereira, qui est notre contact sur place, cette directrice d'orphelinat, nous dit maintenant vous pouvez venir. Et donc en janvier 1985, oui, on arrive au Sri Lanka. Et on est logé dans une guest house. Là, on rencontre Madame Pereira qui nous dit, vous avez une petite fille.
Et alors, vous ne voyez jamais cet orphelinat, au final?
Non.
D'accord.
Voilà, vous avez bien compris qu'on ne le voit jamais. Nous, on est logé chez l'habitant, dans une maison d'hôte, avec d'autres parents, d'ailleurs.
Oui.
Les parents étaient un peu regroupés dans la banlieue très proche de Colombo, qui est la capitale du Sri Lanka. Et évidemment, on ne voit jamais cet orphelinat. L'enfant nous est amené là où nous logeons.
D'accord. Comme pour les autres parents, en fait. Pareil.
Oui, ça se déroule exactement pareil pour tous les parents. Et ça va très vite. Ça va très très vite. On sent bien que toute la procédure est très très rapide et très organisée. C'est-à-dire que c'est vrai que sur le moment, on ne peut pas vraiment se rendre compte à quel point on est manipulé. Maintenant, je m'en rends compte que dès qu'on arrive le lendemain, on nous met l'enfant dans les bras, puis après on nous le reprend. Donc après voilà, le processus est engagé puisque une fois qu'on a eu l'enfant dans les bras,
oui, c'est certain.
Voilà.
En plus, le peuple Sri Lankais est un très joli peuple. Les enfants sont très beaux, je trouve. J'ai eu la chance de me rendre au Sri Lanka il y a 4 ans et j'ai vraiment adoré ce pays. Je trouve que c'est une belle population. Elle avait quel âge, cette petite, quand on vous la met dans les bras?
Elle avait 15 jours.
15 jours, d'accord,
ouais,
carrément.
Ouais. 15 jours, ouais, un tout petit bébé,
oui.
Un tout petit bébé. Ils nous le mettent dans les bras, alors avec des péripéties, c'est-à-dire qu'ils se trompent d'enfant. On nous met dans les bras un enfant, et puis 3 heures après, on nous téléphone et on nous dit on s'est trompé d'enfant.
Et vous pensez que ça, c'est scénarisé, tout ça ? C'est pour vous faire...
Ah non, ça, c'était pas scénarisé.
Non, mais ça aurait pu.
Ah oui, oui, ça aurait pu. Non, ça c'est simplement le reflet du n'importe quoi.
Oui.
Voilà, c'est le reflet du n'importe quoi, puisqu'il y a des parents à qui on a dit, ben voilà, on vous présente votre petit garçon. Et puis quand ils l'ont changé, ils se sont aperçus que c'était une petite fille.
Ah là là, carrément.
Voilà, d'accord. Parce que je crois que il y avait tellement d'enfants qui étaient stockés dans le soi-disant orphelinat, parce qu'ils étaient quand même stockés, les mères et les enfants étaient stockés dans des lieux, pour nous c'était à Colombo, je pense qu'ils ne faisaient pas attention à l'enfant qu'ils prenaient, toujours.
Oui.
Voilà.
Tout cela était en tout cas extrêmement bien organisé, puisque quand on va à Colombo, hein, c'est une grande ville, c'est la capitale du Sri Lanka, comme vous l'avez dit. Et quand on ne connaît pas, c'est vrai que Colombo, on se sent un peu perdu en plus. Donc il doit y avoir, en termes d'émotion, hein, on est haut en émotion. Et je suppose que dans ce contexte en plus d'adoption, de voir ses enfants et que ça aille vite, tout ça a dû vous mettre dans un état émotionnel assez particulier.
Oui, bah bien sûr, hein, c'était l'émotion, elle était à son maximum. Hein. On débarque au mois de janvier dans un pays où il fait 35 degrés, qui est hyper humide. On est dans l'émotion de cet enfant qu'on nous présente, que l'on attend. Il joue là-dessus. Voilà. Il joue là-dessus, ce qui fait que nous, parents adoptifs, même si on avait remarqué qu'il y avait peut-être des petites choses qui étaient un petit peu curieuses, bah, on ne va pas aller en faire la remarque.
Oui.
C'est impossible.
Donc, et vous aviez remarqué, alors c'est ça que vous aviez remarqué, qu'il se trompait, que ça n'était pas aussi sérieux que prévu finalement.
Oui, voilà, l'erreur d'enfant, elle était quand même énorme. Des petits détails, c'est pas des petits détails, c'est qu'un jour on nous a dit qu'il y avait des mères sri-lankaises qui étaient revenues au portail de la guest house et qui avaient crié. Mais on nous avait dit non, mais c'est rien.
Qui venaient chercher leurs enfants.
Bah bien sûr, oui.
Quel
mais
horreur.
Ça, évidemment, ils ne nous le disaient pas. Hein. Voilà.
Alors, on va revenir sur les conditions, hein, puisque vous avez, on va le voir, découvert tout ça très tard. Mais donc, on vous met votre fille dans les bras. Vous adoptiez finalement pour faire une bonne action à l'époque, Véronique.
Alors, le mot bonne action, il faut l'employer, Olivier, avec des pincettes, parce qu'actuellement... il est très mal interprété.
Alors, bonne action, voilà. J'entends par bonne action en fait que vous voulez rendre un enfant qui vit dans des conditions très pauvres, donner une vie plus décente, c'est ça que j'appelle bonne action, sortir un enfant d'un destin, lui offrir un autre destin que sera le sien dans son pays en fait.
Voilà, c'est ce qu'on nous disait. Hein. Et moi, je sais que vous le dites d'une manière très bienveillante. Et c'est vrai qu'il faut replacer dans le contexte des années 80. Moi, j'y tiens beaucoup. Hein.
Oui.
Et vous avez raison hein, de le dire comme ça. Les années 80, c'était ça. C'était les concerts de Geldof pour l'Éthiopie.
Oui.
C'était déjà Coluche qui allait arriver avec les Restos du Cœur.
On était dans un monde très tolérant, on était dans un monde où on ne cherchait pas obligatoirement à créer le phénomène de la fumée, il n'y a pas de fumée sans feu. On était dans un monde beaucoup plus libre finalement qu'aujourd'hui. C'est vrai que le mot bonne action aujourd'hui, l'expression bonne action aujourd'hui peut tout de suite éveiller des soupçons, une interprétation, je vois. Bon, mais en tout cas, nous, on sait, comme vous, comme moi, nous avons connu les années 80, on sait qu'à cette époque, tout ça se faisait dans un esprit charitable, en tout cas...
Altruiste,
exactement.
Je dis qu'on était des altruistes, voilà.
Donc, on vous met cette petite fille dans les bras, de 15 jours. Bon, je suppose que vous en tombez amoureuse directement.
Ben oui.
On vous l'enlève, pourquoi finalement ?
On nous la laisse pas, parce qu'elle doit retourner à l'orphelinat, parce que pendant 2 jours, ils nous emmènent nous promener, faire du tourisme dans l'île. Bon, moi, j'avais pas du tout envie de relaisser ce bébé, de le reconfier, mais bon, c'était comme ça. On disait oui, et puis on obéissait à cette Madame Pereira. On avait peur, hein, vous savez. on était un peu dans un climat de peur.
Alors, je précise à celles et ceux qui nous appellent, parce que Madame Pereira ne fait pas très Sri Lankais, sachez que le Sri Lanka a été une colonie portugaise et que quand on va au Sri Lanka, on est très étonné de voir des églises magnifiques et des maisons coloniales style portugais, hein, comme, comme à Manille, comme aux Philippines, puisque le Portugal régnait il y a quelques siècles sur ces continents-là. Et Madame Pereira était bien sri-lankaise et non d'origine portugaise.
Oui, elle était bien sri-lankaise. Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé, je pense parfois à le dire. Il y a énormément de Pereira au Sri Lanka, comme il y a des Sena, comme il y a des De Silva. Voilà, ce sont pourtant des Sri-lankais, mais qui ont gardé cet héritage de nom portugais. Donc Madame Pereira était tout à fait sri-lankaise et s'appelle Madame Pereira.
Madame Pereira présentait bien, je suppose. Elle était très rassurante, Véronique.
Moi, elle me faisait un peu peur, hein, quand même. Hein. Je ne serais pas devenue sa copine, mais enfin, elle en imposait. Oui, elle en imposait.
D'accord.
Et puis, on n'aurait pas eu idée de la contrarier. Quoi. Voilà.
Vous rentrez donc en France, une fois que le bébé est retourné un peu à l'orphelinat. Vous l'avez combien de temps après, 15 jours après?
On a le jugement d'adoption 15 jours après, même D'accord. moins de 15 jours après. Je crois que c'est le 26 janvier qu'on a le jugement d'adoption et on repart en France le 30 janvier, je crois.
D'accord, donc vous repartez en France.
Tout va bien.
Et là, tout va bien. Vous allez élever cette petite fille qui va faire votre bonheur ainsi que celui de ses frères, hein, puisque vous avez déjà deux garçons. Comment tombe la nouvelle? À quel moment?
Alors là, on fait un saut dans le temps de 33 ans, puisque bon, pendant 33 ans, on a une vie de famille normale, qui n'a rien de... particulier à une vie de famille tout à fait normale. Et au bout de 33 ans, notre fille nous dit, donc elle avait à l'époque 33 ans, nous dit « J'aimerais retrouver ma famille d'origine, j'aimerais savoir d'où je viens, j'aimerais... » Alors elle tourne quand même un peu autour du pot pour nous en parler, mais enfin bon, au bout d'un moment, je comprends que c'est ce qu'elle désire, et je lui demande, je lui dis « Mais tu veux retrouver ta famille ?» Elle me dit « Oui, j'aimerais savoir, et j'aimerais que vous m'aidiez. » Et j'aimerais que vous m'aidiez.
D'accord. Elle exprime ce souhait à 33 ans, quand d'autres peuvent l'exprimer plus tôt, plus tard, ce que je trouve très sain de la part de votre fille. Et comment
c'est souvent, vous savez, c'est souvent quand même autour de 30 ans. Hein.
Ah oui.
Moi, je ne le savais pas, mais je pense que ça correspond aussi à, pour les jeunes femmes, à des désirs de maternité pour elles-mêmes ou d'être déjà mère. Nous, on a remarqué que c'était souvent autour de la trentaine que cette demande arrivait. Voilà. Et donc, nous, évidemment, on lui dit qu'on veut bien l'aider pour des tas de raisons. D'abord, on est d'accord et elle nous le demande parce que nous, on connaît bien le Sri Lanka. Et on y était retourné, on l'avait ramené dans son pays en vacances. Et il se trouve que nous, on a eu une maison au Sri Lanka, sur la côte.
Ah oui
après le tsunami, on a vécu une partie de notre vie sur la côte sud du Sri Lanka.
Où est-ce que vous étiez exactement?
À Ambalangoda.
D'accord. Ça, je
Juste au-dessus d'Ikadoua. Ikadoua, souvent, d'accord, ça parle plus aux gens. Et donc, on connaissait bien le pays parce qu'on a sillonné l'île de Sri Lanka à moto. Et pendant plusieurs années. Donc notre fille nous demande ça parce qu'elle sait qu'on va pouvoir l'aider, on va pouvoir assurer la logistique.
Que vous connaissez bien le Sri Lanka et que vous allez pouvoir l'aider du mieux possible puisqu'elle connaît bien moins le Sri Lanka que vous. On va marquer une petite pause si vous le voulez bien, Véronique, et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord?
Bien sûr.
À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Il est 23h29 sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 3921, nous sommes là pour vous écouter. Véronique, donc vous partez avec votre fille là-bas. Vous n'avez jusque-là pas eu vent de la moindre arnaque, de la moindre escroquerie autour de l'adoption au Sri Lanka?
Rien. Et avant de partir, on envoie le dossier de notre fille à un ami sur place. C'est ce que je demande à ma fille. Hein, je lui dis, pour gagner du temps, on va envoyer le dossier à Soudat. Et en fait, c'est là qu'on a appris le trafic. C'est le jour où Soudat me téléphone. parce qu'il était allé à une adresse qui était notée sur le dossier. Il m'appelle et il me dit, Véronique, c'est un baby business. Et là, c'est la fin du monde.
Vous saisissez tout de suite ce qu'il veut vous dire.
Ouais, je comprends pas. J'allais dire, je ne comprends pas pourquoi j'ai compris aussi vite. Mmh. Ça a été instantané. J'ai immédiatement compris. Et c'est, oui, c'est la fin du monde.
Là, le visage de Madame Pereira vous est apparu 33 ans après, autrement, je suppose.
Alors, ça, vous savez, quand on a un choc comme ça, ça se fait par étapes.
Oui.
Parce qu'au début, on est anéanti et on ne voit pas les choses clairement. Et à l'autre bout du fil, notre ami Soudat, il était autant affolé que nous. Et donc, on part au Sri Lanka en sachant déjà que c'est un baby business. Et on part, ma fille, elle part pour retrouver sa mère, mais en se disant, maintenant qu'on sait que c'était un trafic, comment on va la retrouver ? Et nous, parents adoptifs, eh bien, on ne part plus uniquement pour accompagner notre fille. On part pour comprendre. Mmh. Parce que là, on se dit, ça nous concerne. Hein.
Donc, quand vous partez et que vous arrivez là-bas, vous allez enquêter comment ?
On part pour enquêter. Alors, la chance qu'on a eue, hein, moi, je dis toujours qu'on a eu de la chance dans tout ça, c'est que, bon, d'abord, on connaissait bien le pays et on avait des amis sur place, et notamment cet ami, Soudat, qui a été un peu notre fixeur, si vous voulez. Mm-hmm. Hein, c'est un peu grâce à lui qu'on est quand même allé si vite. D'abord parce qu'il nous a permis il a été notre traducteur. Hein. Tout le monde ne parle pas anglais au Sri Lanka. Dès qu'on va dans la campagne, les gens ne parlaient plus que singalais. Et nous, en singalais, on ne va pas très loin non plus. Et Soudat nous aide. Et il nous dit qu'il faut mettre en route tout ce que l'on peut mettre en route. C'est-à-dire, il avait retrouvé la secrétaire de Mme Pereira. Et nous, on savait que Mme Pereira était toujours vivante. Parce qu'avant de partir sur Internet, on s'était précipité sur Internet pour vérifier ce que Soudat nous avait dit. Et là, on s'est rendu compte que des enquêtes avaient déjà été faites, notamment aux Pays-Bas. Il y avait une équipe de journalistes de Zembla Productions qui était partie aux Pays-Bas en 2017 et qui avait tourné. Et moi, sur ce film que j'arrive à trouver sur Internet, eh bien, je vois Mme Pereira. Alors, c'est là que j'ai réalisé ce que vous disiez tout à l'heure. Je l'ai réalisé devant le film des Hollandais. Et je vois Mme Pereira 30 ans plus tard, c'est-à-dire sous forme d'une momie desséchée, plus du tout la personne arrogante et méprisante que nous avions connue. Là, c'est une petite vieille, mais j'étais à la limite de ne pas la reconnaître. C'est sa voix et puis son assurance. Et elle continue de nier devant les caméras des journalistes des Pays-Bas. Donc on avait toutes ces informations quand on est parti. Donc Soudat, sur place, nous a dit « il faut tout mettre en route ». Et on décide très rapidement de retourner voir Mme Pereira.
Et vous la trouvez, Mme Pereira ?
Alors mon mari, il a beaucoup de mémoire.
Oui.
Il s'est retrouvé un endroit. Et nous étions retournés la voir, Mme Pereira, en 92, lors d'un de nos voyages au Sri Lanka, pour vous dire à quel point on avait confiance en elle. On était retournés la voir pour lui présenter notre fille, qui avait 7 ans. Voilà, on lui avait fait une petite visite amicale.
Elle vous avait bien accueillie, je suppose. Elle était très contente de revoir. Non, pas.
Je crois, elle était un peu méfiante, quand même.
Ah oui, vous m'étonnez.
Ouais. Elle était un peu méfiante.
Parce que je dois préciser, au niveau de notre conversation, là, Mme Pereira, elle avait des dizaines d'enfants volés sur la conscience. Donc, vous m'étonnez qu'elle n'était pas.
Elle n'était pas. Des dizaines, c'est des.
Oui, même des centaines.
Peut-être milliers. Hein.
Oui.
Non, elle devait vraiment se méfier. Mais on se souvenait où elle habitait et on y retournait.
Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais elle habitait dans une maison assez cossue. C'était quelqu'un qui avait de l'argent ou...
Ah oui, ça, là. Elle va avoir beaucoup d'argent. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Mais oui, elle habitait une belle maison. Mais elle habitait toujours la même maison que 10 ans, 20 ans auparavant. Elle habitait toujours la même maison qu'on a reconnue. Et là, Soudat nous a dit « Oulala, c'est pas prudent de se pointer comme ça. Il faut passer voir la police d'abord. » Donc, il faut imaginer que nous sommes arrivés chez Mme Pereira, escortés par la police sri-lankaise, en armes, avec des fusils mitrailleurs.
Mais pourquoi cela ? Pourquoi ?
Pour nous protéger. Voilà ce qu'on nous a dit, pour nous protéger.
Et c'était à l'initiative de qui, ça, que la police ? Votre mari ou...
Soudat.
Soudat, votre fixeur.
Oui, notre fixeur, oui, oui. Donc on est arrivé chez Mme Pereira comme ça. Et c'est vrai que cette protection qui était pour nous, moi après je me suis dit, et c'est ma fille aussi qui me l'a dit, elle m'a dit, mais tu crois que c'était pour nous protéger, nous, ou pour protéger Mme Pereira ? On peut se poser la question, hein. Voilà, en tout cas, il y avait deux fusils mitrailleurs. Hein,
c'est-à-dire que dans ce genre de pays, bien évidemment, la corruption est à son paroxysme et il faut faire très attention. De toute façon, à partir du moment où on n'est pas chez soi, il faut de toute façon faire très attention.
Un étranger est toujours coupable.
Ah oui.
Très attention. Donc voilà, Mme Pereira, ben, elle ne veut rien nous lâcher. Elle a la même arrogance et on lui dit, c'est Soudat hein, qui lui dit, parce qu'en plus elle s'arrangeait pour ne pas parler anglais, pour qu'on ne comprenne pas. Soudat lui dit, écoutez, vous avez une semaine hein, pour nous dire où est la mère de Titania. Donc, hein, Titania, c'est notre fille. Ouais. Et il lui colle un ultimatum. Et on repart, voilà, comme ça, en étant au bout d'une demi-heure, en étant sûr de rien, mais en se disant, bon, peut-être qu'elle va nous dire quelque chose. Et là, ils avaient quand même dû avoir sacrément peur parce que ça n'a pas pris une semaine. Au bout de 3 jours, ils ont rappelé Soudat pour l'envoyer à une adresse et dire « Bon, ben voilà, la mère, elle est là, etc. Allez voir un tel dans un officier d'état civil et il va vous donner des informations. »
Mais comment, il répertoriait tous les parents à qui il volait des bébés ? Vous avez appris comment il faisait ? Quelle était leur méthode ?
Ah, j'en sais rien, et je ne sais absolument pas comment Mme Pereira a pu souvenir de quoi que ce soit, mais elle a quand même eu un souvenir très précis, puisqu'elle nous a donné la bonne méthode pour retrouver la mère de notre fille. Elle nous a envoyé au secrétariat du centre de Lille, notre fille est du centre, et là c'est un officier d'état civil qui nous a sorti un acte de naissance en nous disant, bon, si cette femme, elle a eu des enfants plus tard, sans doute qu'on va pouvoir la retrouver comme ça. Oui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on avait un certificat d'acte de naissance pour notre fille. Mm-hmm. Mais c'était un faux.
C'était un faux, oui.
C'était un faux.
Le nom de la maman n'était pas dessus.
On n'était pas sûr. D'accord. Voilà. Et Mme Pereira, quand on lui demandait, elle me disait, oh là là, comment voulez-vous que je me souvienne ? Il y en avait tellement. Voilà ce qu'elle m'a répondu.
Oh là là.
Voilà. Parce que, comme ils volaient les enfants... Ils mettaient en place ce qu'on appelle des mères de substitution.
Oui.
Donc il y a beaucoup, des acting mothers, des mères qui jouaient la comédie et qui étaient payées pour jouer la comédie. Donc là, il y avait des faux noms. C'était sur les actes de naissance. Et malheureusement, les enfants aujourd'hui adoptés adultes qui veulent retrouver la trace de leur mère biologique, si ça s'est passé comme ça, ben ils ne peuvent rien retrouver. Ils ne peuvent rien retrouver.
Pensez-vous qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui ne sont pas au courant de cette arnaque, en fait ?
Oui, je pense que demain, je vais avoir des appels, oui.
Oui.
Ouais, ouais.
D'accord.
Oui, je suis très étonnée, parce que nous, on a lancé l'alerte il y a presque 4 ans maintenant.
Oui.
Et je découvre qu'il y a encore des gens qui ne sont pas au courant.
C'est fou. Ça veut dire que certains enfants n'ont pas demandé à retourner là-bas, à retrouver, et peut-être n'en avaient pas les moyens, hein, parce que il faut encore avoir les moyens d'aller au Sri Lanka. Hein.
Ou n'ont pas osé le dire à leurs parents.
Oui.
N'ont pas osé. Parce que nous, on a quand même, après, quand on est rentré en France, notre fille a pu retrouver sa famille, etc. Nous, quand on est rentré en France, notre première préoccupation, ça a été de se dire, mais il faut lancer l'alerte.
Oui.
Il faut faire quelque chose. Et là, on pensait vraiment, vraiment qu'il allait suffire de le dire et puis que c'était bon, qu'on y allait avoir immédiatement une réaction du gouvernement, qu'il y allait avoir... Mais il n'y a rien eu. Ça a été le déni et le silence le plus total qu'on nous a affiché. Ben oui. C'est ça notre combat actuellement.
Oui.
Moi, le livre que j'ai écrit, c'est parce que pour moi, c'était ma dernière force, mon dernier levier pour que le gouvernement... fasse une enquête. Nous, on demande une enquête. Cette enquête, elle a été faite en Suisse, elle a été faite aux Pays-Bas, et quand même, ces pays, ils ont reconnu, ils ont présenté quand même leurs regrets, leurs excuses aux familles.
Mmh.
Et en France, rien.
France, rien.
Mmh. Alors que les intermédiaires sont les mêmes. Madame Pereira, elle travaillait aussi pour la Suisse, hein, pour les Pays-Bas.
Madame Pereira est toujours pas n'est toujours pas en prison, en plus, je suppose.
Ah, mais elle a jamais été inquiétée, hein, Madame Pereira. Madame Pereira n'a jamais été inquiétée. L'association qui travaillait avec elle nous a affirmé que Madame Pereira était au-dessus de tout soupçon, hein, que tout le monde, tous les parents adoptifs étaient très très contents des services de Madame Pereira et que nous, on ne comprenait pas. C'est nous qui ne comprenons rien.
Oui, bien évidemment. Mais quand on lit que ce système criminel fonctionnait grâce à la complicité de directeurs d'hôpitaux et de recruteurs chargés de cibler des familles pauvres et vulnérables, et qu'ensuite les trafiquants rentraient dans les maternités et volaient les bébés, comment ne pas se préoccuper d'une telle histoire ? Comment nos politiques ne peuvent... Enfin, c'est hallucinant.
Je ne sais pas, mais aujourd'hui...
Mais c'est une question de mentalité, encore une fois.
On est toujours devant le même déni, hein. Alors, avec quand même une avancée qui est tombée cette semaine, qui est quand même une bonne nouvelle, c'est que nous sommes regroupés en coalition, une coalition qui s'appelle VAIA, hein, Voice Against Illegal Adoption, et que l'ONU, les Nations Unies, hein, ont fait une déclaration cette semaine disant que les adoptions illégales pouvaient être considérées comme un crime contre l'humanité. Cette semaine, c'est arrivé.
D'accord. Donc peut-être cela va peut-être évoluer. Beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs vous demandent si vous avez retrouvé la maman de Tatiana.
Oui. Elle a retrouvé sa famille parce que, alors, c'est aussi une énigme. Même si notre fille a été volée, elle a été volée à sa mère à la maternité.
Oui.
Dans l'histoire qu'on a vérifiée, dont on est certain, cette mère, elle avait 17 ans. Elle venait d'avoir 17 ans.
17 ans, mon Dieu.
17 ans, oui. Et son bébé lui a été volé le premier jour à la maternité. Et là, c'est l'énigme. La famille est partie à Colombo rechercher le bébé.
Ah oui ?
Oui. Là, on sait qu'ils avaient déjà mis en place une mère de substitution, donc ça a été limite. Mais cette famille est arrivée pour rechercher le bébé. Et pourquoi, Olivier, pourquoi ils l'ont laissé à Madame Pereira ? Ça, on ne comprend pas. Pourquoi ils ont laissé le bébé à Madame Pereira avec la jeune maman ? C'est-à-dire, cet enfant de 17 ans a été laissé avec son nouveau-né à Madame Pereira. Et c'est comme ça que ensuite le bébé a été donné à l'adoption.
Alors, attendez, je ne comprends pas très bien. La maman de 17 ans a fini par retrouver votre fille. Elle a été confiée, cette maman, à Madame Pereira. Et malgré ça, votre fille a été adoptée quand même.
Ben oui.
Donc ça veut dire que la maman...
On l'a forcée.
Oui, en tout cas qu'elle a donné son accord ou qu'on l'a forcée.
Ah non, elle n'a pas donné son accord parce que nous, justement, sur les papiers, tous les documents, le consentement de la mère n'est pas signé.
D'accord. Que vous a-t-elle dit, elle, quand vous l'avez rencontrée ? Est-ce que vous avez pu vous en expliquer avec elle ?
Alors, c'est difficile, hein, parce qu'elle ne parle pas anglais. Oui. Parce que ce sont des gens très, très démunis. Hein. Faut imaginer
une maison... Oui, ce sont des gens très, très pauvres. Hein,
au centre de la forêt primaire du Sri Lanka.
Oui.
Elle nous a dit « J'étais une enfant. J'étais une enfant. » Voilà ce qu'elle m'a répété.
Horreur.
Donc, j'ai compris. J'étais une enfant.
Comment votre fille a-t-elle vécu cette période-là ? Est-ce que ça a été compliqué pour elle ?
Alors, ça, c'est l'histoire de Titania. Hein. Donc moi, c'est vrai que je ne parle pas à la place de Titania.
Peut-être avez-vous échangé avec elle là-dessus.
On était avec elle hein, quand elle a retrouvé sa famille. On était tous ensemble. Hein.
Oui.
Je pense que c'est des moments... C'est épouvantable.
Oui.
Épouvantable. C'est là l'émotion. Vous vous dites, je vais avoir un AVC, quoi. C'est même c'est du silence.
Vous avez eu peur.
Vous avez eu peur. Dans les mots bleus, c'est. Moi, j'ai eu peur pour la mère. En tout premier, j'ai eu peur pour la mère, parce que je me suis dit, mais quel choc. Et puis oui, pour ma fille, bien sûr que j'ai eu peur, bien sûr, parce que c'est pas possible de vivre des choses comme ça. Ce n'est que de la douleur, hein. C'est une triade de douleurs, je dis. C'est la douleur de la famille biologique, la douleur de l'enfant adopté. Bon, ils n'aiment pas que je les appelle des enfants, mais c'est quand même des enfants, c'est des enfants de leurs parents. Alors c'est des adultes maintenant, mais eux, cette douleur qui porte à vie, et puis c'est la douleur des parents adoptifs.
Bien évidemment, parce que c'est d'abord la douleur des enfants, mais c'est la douleur des parents adoptifs, c'est la douleur des parents à qui on a volé ces enfants.
Oui, oui.
Tout le monde souffre dans cette histoire.
C'est un triangle de douleur.
Et personne n'est en prison.
Et personne n'est en prison,
donc,
exactement.
Donc, on voit bien là la corruption de ces pays, hein, puisque le Sri Lanka vit encore là, en ce moment, une période fragile, une période difficile, avec un déséquilibre politique, social. En tout cas, c'est un pays qui est malmené depuis maintenant 3 ans, hein, depuis les attentats.
Oui, oui. Les attentats de Pâques.
Et pensez-vous que ça existe toujours ?
Alors, actuellement, il y a beaucoup moins d'adoptions, mais il y a toujours le problème de l'argent. Vous savez, Olivier, quand il y a des enjeux d'argent, il y a forcément des choses illégales qui se font, parce que c'est l'appât de l'argent. Nous, on avait l'impression que ce n'était pas énormément d'argent. Ce qu'on nous avait demandé, c'était 1000 dollars. Mais 1000 dollars en 85 au Sri Lanka, c'était une somme énorme. Et actuellement, l'association LOA, ça s'appelle un OA, un organisme agréé pour l'adoption, qui fait encore des adoptions au Sri Lanka, très peu, hein, 3 ou 4. Mais quand on voit les sommes d'argent qui sont demandés aux parents, mais c'est forcément de la corruption.
Oui.
C'est sur Internet, hein. C'est une fiche de tarifs qui est sur Internet, que tout le monde peut consulter. Et bien, on voit que, par exemple, la rémunération du représentant local pour l'adoption d'un enfant, c'est 2000 euros. Oui. Alors, ce que je veux rappeler, hein, aux auditeurs, c'est que le salaire minimum au Sri Lanka, il est de 35 euros par mois. Et le salaire moyen, il est de 150 euros. Mais le salaire minimum est de 35 euros par mois. Et un représentant local qui va aider un OAA à l'adoption, on va lui donner 2000 euros. Les parents vont verser 2000 euros. Pour avoir le passeport de l'enfant, par exemple, actuellement, on demande à des parents adoptifs 200 euros. 200 euros.
Oui.
Je rappelle que le salaire moyen est de 150 euros et le salaire minimum de 35 euros. Donc il y a quand même de la corruption.
Ah, il y en a à tous les niveaux corruption.
Mais une corruption qui est quand même officielle, qui est couverte encore actuellement par un OAA.
Alors, hein, j'aimerais revenir du point de vue émotionnel dans cette histoire.
Oui, oui, oui.
Vous évoquez la douleur, hein, partagée par tous. Les parents adoptifs, les parents à qui on a volé un enfant, ces enfants qui, comme votre fille à 33 ans, découvrent l'horreur. Même si, bien évidemment, on peut imaginer, et je ne veux pas vous faire parler pour votre fille, bien évidemment, mais on peut imaginer que c'est un tsunami dans la tête d'une adulte de 33 ans, de voir dans quelle vie elle aurait pu se retrouver. Et finalement, par le biais de quelque chose de tordu, une escroquerie, elle s'est retrouvée finalement dans un pays où elle a eu une vie meilleure que, en tout cas meilleure. Alors, meilleure, c'est comme tout à l'heure quand on disait la bonne action. Meilleure, c'est quoi, finalement ? C'est un concept, hein, meilleure. Quelles sont vos relations aujourd'hui ? En fait, est-ce que votre fille a compris ce qui s'était passé, que vous aviez été dupé, ou est-ce qu'elle vous en a voulu ?
Oui. Non, ça, elle a compris, bien sûr.
D'accord.
Ça, elle a compris.
Parce que ça, c'est
bien
très
sûr,
important
bien
pour
sûr,
vous.
Bien sûr que ça, elle l'a compris. Mais c'est très fin, hein, ce que vous dites, que cette vie meilleure qu'elle a actuellement, elle la doit à des mafieux. C'est épouvantable.
Oui, elle la doit à des mafieux, et je ne peux m'empêcher de penser qu'elle s'est posé la question, quelle aurait été ma vie ? Est-ce que je n'aurais pas été plus heureuse, finalement ? En tout cas, vous voyez, c'est très subtil
qui
a pu se passer en termes de réflexion et de raisonnement pour votre fille. Ça a dû être un crève-cœur.
Je pense que ça l'est toujours. C'est parce que c'est extrêmement paradoxal. Hein. De même que c'est paradoxal que nous, on soit ces parents lanceurs d'alerte, hein, parce qu'on a été des parents lanceurs d'alerte. On l'est toujours, hein, puisqu'on demande au gouvernement une enquête. Mais ce qui est paradoxal, c'est que nous, on ne remet pas en cause l'adoption de notre fille. Comment voulez-vous qu'on la remette en cause ? Je dis toujours, c'est ma petite fille chérie que j'aime. et ça ne changera rien. Mais nous sommes malgré tout les parents lanceurs d'alerte.
Vous êtes les parents lanceurs d'alerte, quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, c'est notre fille et nous l'aimons. Mmh. Voilà, c'est comme ça. Et oui, c'est compliqué. Et ça doit être aussi extrêmement compliqué pour elle, bien sûr. Ça l'est pour nous aussi, hein, de se dire que depuis 4 ans, on mène cette action pour que ces adoptions illégales soient reconnues, pour que le gouvernement le reconnaisse, parce qu'il y a eu des manquements, hein, forcément. À l'ambassade de France, ils le savaient, l'alerte a été donnée. Nous, on est retournés aux archives diplomatiques, on a enquêté en France.
Ce que vous affirmez donc, c'est que l'ambassade de France a été mise au courant, en tout cas qu'il y a eu plusieurs alertes, mais qu'à aucun moment elle n'a bougé.
Ah ben bien sûr, on a les preuves, bien sûr. Enfin, c'est surtout le ministère des Relations extérieures qui a été mis au courant par des ambassadeurs en place qui ont envoyé des courriers en disant il y a un probable trafic d'enfants. Nous, on a une dépêche qu'on a retrouvée aux archives sur laquelle c'est écrit en toutes lettres. Et c'était en 83 qu'il l'a écrit. C'est-à-dire que nous, quand on est parti en 85, eh bien, l'alerte avait été donnée. Et
ça,
l'alerte avait été donnée
c'est
par d'autres pays.
Ce que vous nous racontez est fou. Ça veut dire qu'on ne vous a pas alerté, alors que c'est le rôle de l'ambassade de France, puisque vous devez y faire des papiers. Hein.
Oui,
je rappelle
que
quand on sort un enfant de son pays, on se doit d'alerter déjà au niveau de l'ambassade.
On est allé faire un visa pour notre fille.
Et personne ne vous a dit qu'il fallait vous méfier.
Non, bien sûr que non.
Donc il y a erreur gravissime de l'État français dans cette histoire.
Ah ben bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils ne nous répondent pas. Nous, on a dû faire 500 ou 600 courriers au ministère des Affaires étrangères, à l'époque, à M. Le Drian. Mais on lui a fait combien de courriers ? Il nous connaît très bien. Il avait même donné ordre aux institutions de ne plus nous répondre et de ne pas nous recevoir. Voilà ce qu'on a su.
Ah ouais, bah comme ça, c'est plus simple.
Voilà. Mais ils savent très bien, ils le savaient. Ce qu'on voudrait comprendre, c'est pourquoi ils l'ont laissé faire. Et pourquoi aujourd'hui, ils ne veulent pas le reconnaître ? Pourquoi aujourd'hui ils ne veulent pas le reconnaître ? Ce serait tellement simple. Nous, il suffit de nous dire oui, effectivement, il y a eu des manquements, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et nous, en tant que parents, ça viendrait quand même nous dire, nous dédouaner et dire à tous ces enfants, non, les parents, ils n'y étaient pour rien, ils ne vous ont pas acheté, ils ont simplement été dupés. Et l'État français a laissé faire.
C'est assez terrible.
Oui. Et pour l'instant, on a quand même cette décision de l'ONU, on a cette coalition, donc VAIA, de 13 associations et collectifs, et nous allons être reçus aux Nations Unies en début d'année pour témoigner. Mais que va faire la France ? Nous, on attend que la France, elle bouge. Hein.
Oui.
Et puis nous, on est vieux quand même. Hein. Enfin, c'est-à-dire que petit à petit, il faut quand même comprendre que les parents vieillissent, les parents meurent.
Bien sûr.
Moi, j'étais encore une jeune maman au moment de l'adoption, donc je ne fais pas partie des mamans très très âgées, mais bon, on vieillit quand même. Les protagonistes sur place au Sri Lanka, ils sont presque tous morts, parce que ce n'était pas des gens de 20 ans qui faisaient ce genre de choses, c'était des gens qui avaient quand même un petit peu de bouteille.
Ouais.
Donc il en reste plus que 3 de vivants, donc Mme Pereira, sa secrétaire, et puis Don De Silva qui travaillait pour la Suisse. Par exemple, des ambassadeurs de l'époque, il n'y en a plus que 2 qui sont encore vivants. Plus que 2 ambassadeurs encore vivants. Des ministres des Relations extérieures, il n'y en a plus que 2. Et puis il y a Roland Dumas, il est encore vivant, mais il a 100 ans.
Il a 100 ans, Roland Dumas ?
Oui, il a 100 ans, Roland Dumas.
Oh,
il va avoir 100 ans cette année, je crois. Bon, il est de cette époque-là. Mais qu'est-ce qui... Voilà. Et il y a Alain Juppé. Voilà, c'est les deux ministres de l'époque encore en vie et 2 ambassadeurs et sur place 3 protagonistes. Donc voilà, nous on se dit mais ils attendent que nous aussi les parents on meure. Comme ça tout est réglé.
Il y a un moment où il y aura plus personne.
Et les parents sont quand même les témoins de l'époque. C'est vrai que les enfants, ils ont évidemment, bien sûr qu'ils ont toute leur histoire à raconter et à témoigner de leur histoire. Mais ce qui s'est passé sur place. C'était des nouveau-nés. Ils ne peuvent pas le raconter. Nous, notre fille, elle ne peut pas venir raconter ce que je raconte.
Non, hein. Puis moi, je pense à tous ces enfants devenus adultes et devenus à leur tour père et mère.
Oui.
Le cataclysme dans leur tête.
Ah ben oui.
Parce que c'est C'est incontournable, inévitable.
C'est le cataclysme, hein. ça fait des drames. Hein. Ça fait des drames. Hein.
Oui,
je veux dire, c'est des douleurs qui se transforment aussi en haine, parce que la douleur se transforme en haine des parents, en haine de tout. Enfin, il faut être fort. Bah,
c'est-à-dire que là, vous voyez, c'est comme l'impression, son ADN sociétal, vous voyez, l'ADN de l'homme ou la femme que vous êtes, et faussé, vous voyez, il a été modifié sans qu'on vous le dise, et sans qu'on vous demande votre avis. Et vous avez sans doute le sentiment d'avoir berné tout le monde depuis 25 ans, depuis 33 ans, depuis 40 ans. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'histoire que vous ignoriez et qui a grandement compté dans ce que vous êtes. Et c'est terrible, ça doit être terrible, terrible.
Mais là, je me dis que ce que vous dites, ça concerne l'enfant adopté,
le jeune adulte adopté, oui.
Mais aussi les parents adoptifs. Tout ce que vous dites, je peux le prendre pour moi.
Oui.
Moi aussi, j'ai été bernée, moi aussi,
bien
j'ai
évidemment,
cru.
Bien
moi
évidemment,
aussi.
Véronique, mais ouais, ça n'est pas la même chose tout de même, ça n'est pas la même chose.
C'est pas la même chose,
vous savez qui
c'est
vous
pas
êtes,
la même chose.
Vous savez qui vous êtes, vous savez... où vous êtes né, vous savez, votre papa, votre maman, tout ce qu'ils ont fait pour vous avoir, vous voyez, parce que c'est de là que ça vient. Il y a dans notre histoire aussi l'histoire de nos parents, l'amour, la rencontre. On est tous curieux de ça. On a tous demandé à nos parents, mais alors vous êtes rencontrés où ? Au bal et tout, et t'étais comment, elle était comment, maman ? Vous voyez, là, ça fait partie de nos éléments qui nous constituent finalement l'histoire de nos parents. Et là, tout à coup, il y a quelque chose, il y a un vide, il y a comme si on avait effacé la bande pendant un moment capital. Et c'est comme si on était à moitié là, finalement. À moitié, vous voyez ce que je veux dire ? À moitié réel. Ça doit être très compliqué, très compliqué. Au même titre que lorsque j'ai fait deux films sur les nés sous X.
Oui.
Ce sentiment dans la quête. Mm-mm. Alors, il y a la quête, bien évidemment, pour savoir génétiquement si on n'a pas des... au niveau de la santé. Et puis, quand on va faire des enfants, si on veut savoir retrouver ses parents pour savoir s'il n'y avait pas telle maladie. Vous voyez, déjà, ça impacte
l'esprit.
Oui,
ça aussi.
Mais au-delà de ça, est-ce que mon père était intelligent ? Que faisait-il comme métier ? Enfin, et là, c'est... D'un seul coup, c'est on se prend un grand mur dans la tête, quoi. Et qui je suis ? Et finalement, la quête de ces enfants nés sous X, votre fille n'a même pas vécu cette quête parce que finalement, elle a commencé cette quête et elle a pris une météorite dans la tête.
Ah ben oui, voilà, en même temps, oui.
Et donc, je suppose que oui, ça impacte les relations familiales. Et qu'il doit y avoir une grande difficulté relationnelle entre les parents qui ont adopté leurs enfants.
Oui, oui. Ça impacte toute une famille. Hein. Oui. Ça a impacté ses frères aussi. Ça leur a fait beaucoup de chagrin à ses frères.
Bien évidemment.
Oui, c'est un chagrin familial hein, pour nous. Hein. Une douleur familiale.
Oui. Je me doute que ça ne doit pas être évident pour elle d'abord, pour vous ensuite et pour bien évidemment ses frères. On va laisser passer l'info avant de conclure et de se dire au revoir, Véronique.
Oui, oui.
Donc, vous restez avec moi, bien évidemment. Et puis, on va prendre le temps de conclure. D'accord ?
Merci.
À tout de suite. Il est minuit passé de 3 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Ou nous écrire au 739-21, suivi du mot « nuit », écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Véronique qui nous compte depuis le début de l'émission une mésaventure qui, bien évidemment, impacte la vie de tous ses parents qui ont adopté au Sri Lanka, mais ailleurs dans le monde, victimes de trafic. On volait des enfants à cette époque, dans les années 80, au Sri Lanka. Vous évoquiez, Véronique, le manque de l'État français, le manque des des diplomates présents à l'ambassade de France à l'époque. Et on se doute que votre combat va encore être âpre et dur, vu que ça n'avance pas vraiment, quand on voit des pays voisins, cousins, ayant fait depuis déjà quelques années ce chemin et s'excuser pour, finalement, pour un manquement.
Oui.
Vous attendez quoi maintenant, Véronique ?
J'attends que la France mène une enquête. Voilà.
Mais cette enquête, est-ce qu'elle n'a pas... Parce que finalement, cette enquête a été réalisée, Véronique.
On sait... l'a faite.
Oui, vous l'avez faite. Des journalistes hollandais l'ont faite aussi.
Mais il faut qu'en France, il y ait une enquête, ce qu'on appelle une enquête interministérielle, oui. qui soit menée, et une enquête indépendante. Et parce que finalement, tant que l'enquête n'est pas faite, peut-être que tout va bien. Hein. Voilà.
C'est sûr que quand on ferme les yeux et qu'on laisse passer les trucs qui sont des escroqueries, c'est sûr que tout se passe. Bon, écoutez, en tout cas, on espère.
Ce qu'on attend, c'est la reconnaissance de la France. Je l'ai écrit, tout ça, ce témoignage. C'était ma force, c'était ce qui me restait, c'était de l'écrire pour qu'il y ait un livre, pour que ça reste et que ce livre, il soit un levier.
Alors, ce livre s'appelle « Ma fille, je ne savais pas ». C'est aux éditions City. Et vous qui nous écoutez, qui avez écouté Véronique ce soir, vous pouvez bien évidemment vous le procurer dans toutes les bonnes librairies et sur Internet. Il est très intéressant ce bouquin. J'ai plongé dedans et on y apprend beaucoup de choses avec, en ayant quelques sueurs froides, je vous le dis. Merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Véronique. On vous souhaite à vous, votre mari, vos deux fils. Et puis j'espère que votre fille entendra ce podcast qui sera dès demain à partir de midi sur les podcasts d'Europe 1. Qu'il faut relayer et j'espère qu'un jour, en tout cas... la France s'excusera auprès de tout, d'abord auprès de tous ses enfants.
Oui.
Tous ses enfants, et
c'est
bien évidemment, bien
pour
évidemment,
eux,
pour tous ses parents dupés et ses autres enfants, frères et sœurs, cousins, cousines, qui ont été dupés. C'est très triste. Merci Véronique, on vous embrasse et puis on vous souhaite bon courage.
C'est moi qui vous remercie beaucoup, Olivier.
Je vous en prie, au revoir.
Au revoir.
Annie nous a écrit au 739-21 pour nous rappeler qu'on avait aussi volé des enfants réunionnais. Merci Annie pour ce SMS au 739-21, car c'est vrai que bon nombre d'enfants réunionnais issus, pareil, de familles pauvres, ont été d'abord mis dans des accueils, et puis ensuite ont été embarqués sans qu'on leur explique pourquoi, comment, pour la France métropole, et ont été un peu mis dans les territoires qui étaient le moins peuplés. Et aujourd'hui, ces enfants se sont réunis en association et demandent aussi des réponses à la France, qui en a donné en tout cas en partie, mais pas complètement. On accueille Jonathan, maintenant, au 39-21. Bonsoir, Jonathan.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Jonathan, vous nous appelez d'où ?
Le Centre-Val-de-Loire.
Centre-Val-de-Loire. Et quel âge avez-vous ?
60 ans.
60 ans. De quoi vous voulez nous parler, Jonathan ?
De ce qui est économie d'énergie.
Oui.
Donc, moi, je n'ai ni eau, ni électricité.
D'accord. Par choix ?
C'est un choix, depuis une quinzaine d'années.
Ah, mais c'est pour ça que je vous le demande, mon cher.
C'est un choix.
C'est un choix. Et alors, explique-moi comment vous vous débrouillez.
Eh bien, pour l'eau, j'ai une source. Déjà, ça, le problème est résolu.
Oui.
L'électricité, j'ai des batteries de voiture et batteries camion que je recharge pour m'éclairer.
Que vous rechargez comment ?
Alors, soit groupe électrogène, et autrement, là, j'ai un copain qui m'a fabriqué avec un moteur de débroussailleuse, qu'il a accouplé à un alternateur de voiture.
Oui.
Et je mets ça en route et je recharge une batterie en 2 heures, et j'ai 24 heures à 30 heures d'autonomie.
D'accord, mais ça, vous le rechargez bien en mettant de l'essence dans un groupe électrogène, par exemple. D'accord.
Avec l'essence. Ouais, là, d'accord. Là, oui.
Donc, ce n'est pas 100% non plus écolo. Il y a un peu d'essence et tout ça, quand même.
Non. Il y a de l'essence.
D'accord.
Mais il me faut mes batteries pour les recharger. Il me faut 10 litres d'essence par mois, c'est tout. Hein.
10 litres d'essence, ah oui, d'accord. Donc, ce n'est pas beaucoup.
Ah non, ce n'est pas énorme. Hein.
Vous vivez au milieu des bois, m'a dit Florian.
Voilà. Voilà. Je suis dans le milieu d'un bois, dans un chalet bois.
Oui.
Donc, point de vue chauffage, j'ai une cuisinière à bois. Là, actuellement, j'ai 26 degrés, donc je n'ai pas besoin de col roulé, comme dit Bruno Le Maire. Je m'en passerai largement.
Ouais, ça, c'est parce que vous êtes de bonne nature, mon cher, parce que Bruno Le Maire, il n'est pas pour grand-chose. Là, il fait froid en ce moment, donc il y a certaines personnes qui sont un peu frileuses. Vous n'êtes pas frileux.
Ah non, mais moi, je ne suis pas frileux du tout. Hein. Ce que je crains, moi, c'est la chaleur. Ah ça, la chaleur, j'ai horreur.
D'accord.
Mais par contre, le froid... Quand il fait froid, bien on se couvre, ça va tout seul.
D'accord, mais alors dans votre chalet, il fait combien de mètres carrés, votre chalet ?
20 mètres carrés.
D'accord, mais vous vous chauffez un peu, avec du bois par exemple ou pas ?
Bah oui, cuisinière à bois, comme je vous ai dit, ouais.
D'accord, cuisinière à bois, et ça chauffe les 20 mètres carrés ?
Bah naturellement.
Et vous faites la cuisine donc dessus ?
Ah bah dessus, puis à l'intérieur dans le four.
D'accord.
Voilà, c'est à double usage, hein. Triple usage même.
Ok, et le frigo, donc vous avez un frigo ou branché sur les batteries ?
J'ai un réfrigérateur qui marche sur une bouteille de gaz.
Sur une bouteille de gaz, d'accord. Une grosse bouteille de gaz ?
Une 13 kilos.
D'accord.
Ouais.
Et vous vivez seul ?
Je vis seul. Alors, le frigo, c'est un frigo de 60 litres. Il ne faut pas mettre grand-chose dedans, mais enfin, moi, ça me suffit. Hein.
D'accord.
Et une bouteille de gaz, ça me fait 2 mois.
D'accord. Et en fait, c'est un choix. Pourquoi ce choix ? De vivre seul et de voir le moins de monde possible ?
J'ai toujours été habitué comme ça, à vivre seul. Et dans le milieu des bois, ça a toujours été ma vie.
D'accord. Depuis tout petit ?
Depuis tout petit, ben, je suis né là-dedans, j'ai été bercé là-dedans. Mon père était bûcheron dans la forêt, parce qu'il y a une forêt en face de chez moi qui fait 3800 hectares.
Oui.
Et mon père était bûcheron dans cette forêt. Et à l'époque, il y avait une quarantaine de bûcherons.
D'accord. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus trop de bûcherons ou il y en a encore ?
Ah non, il n'y a plus de bûcherons maintenant. Tout est mécanisé. Hein.
D'accord. Vous avez la télé, la radio ?
Ah bah la radio, naturellement. Bah d'accord. Oui, ça, les radios, postes de radio, toute la journée, j'ai la radio. Hein.
D'accord.
Même la nuit. La télé, j'ai une télé qui n'est pas branchée sur l'antenne, donc je sers de la télé seulement pour regarder les DVD, c'est tout. Quand j'ai envie de regarder la DVD, je regarde la DVD, je mets le groupe en route, et puis voilà.
Très bien. Bon, bah, vous êtes heureux, mon cher Jonathan, visiblement.
Ah ben, il n'y a aucun souci comme ça, puis je ne voudrais pas changer ma vie, vivre... Non, c'est vivre en appartement, ça c'est hors de question.
C'est le cauchemar pour vous, non ?
Quand je vais en ville, c'est un cauchemar.
À quand vous allez... Et pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi.
Non, être dans le monde, ça ne m'intéresse pas trop. Puis depuis le Covid, eh ben, de moins en moins. Alors oui, je disais, en appartement négatif, en lotissement, les uns sur les autres, négatif aussi. J'aime bien la solitude.
Oui, mais là, vous êtes au poil, maintenant.
Ah ben là, totalement. Hein.
Pas l'envie de partager sa vie avec une femme ?
Ah si, mais aller trouver une femme qui veut vivre comme moi, c'est pas facile. Hein.
Bah peut-être pas, qu'est-ce que vous en savez ?
Ça peut se trouver. Et justement, je vais pas faire mon marché sur votre antenne, mais...
Non, c'est une petite annonce, non ?
Moi, je cherche des gens qui vivent comme moi, qui voudraient vivre comme moi. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vivent comme moi.
Oui.
Il y en a, de toute façon. C'est sûr, il y en a.
Et vous voudriez les trouver pourquoi, en fait ? Pour échanger ?
Pour échanger, pour communiquer, pour dialoguer.
D'accord.
Ça ne me dérange pas du tout. Hein. Vous pouvez, s'il y a des gens qui veulent, vous leur donnez mon numéro et puis qu'ils me rappellent.
Bah écoutez, avec grand plaisir, ça sera fait. Si des gens nous appellent, on vous mettra en contact, mon cher Jonathan.
Voilà.
Merci beaucoup de nous avoir appelés sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Et puis on vous souhaite une belle vie, hein, mais elle a l'air d'être très belle. Donc,
De ce côté-là, il n'y a aucun souci.
Qu'elle continue. Au revoir, Jonathan.
Je vous remercie.
Au revoir.
revoir.
La Libre Antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Il est à minuit 17 sur Europe 1, que le temps passe vite. On accueille David maintenant. Bonsoir David.
Bonsoir Olivier. Donc, bonsoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, il y a 15 jours là. Par rapport aux symptômes dépressifs, depuis 3 ans.
Oui.
Oui, voilà. Donc, il m'est arrivé des courses. J'ai perdu tout mon entourage. Enfin, j'ai perdu façon de parler. Bon, ça allait un peu mieux là depuis quelques temps.
Oui.
Parce que je faisais ma marche tous les jours. Bon, on remonte pas comme ça du jour au lendemain. Hein, mais bon, j'ai allongé un peu ma marche tous les jours. Et puis mes amis m'ont lâché. J'avais mon ami le plus proche à qui j'avais rendu service dernièrement. Un soir, donc j'avais appelé, j'avais un service à lui demander parce que j'avais rendu un service, et puis donc ça a été, je dis j'ai plus besoin. Et puis entre temps, en discutant avec sa compagne, on a discuté, santé machin. Puis au bout d'un moment, ça l'a énervé, il me dit bon, on raccroche parce que on va finir de manger et tout. Puis depuis, c'est mon meilleur ami. Pour moi, c'était mon meilleur ami. Plus de nouvelles.
Vous a fait un coup de jalousie?
Non, c'est qu'il en avait marre d'entendre. J'étais quelqu'un de très vivant avant, et puis automatiquement, quand je suis passé de quelqu'un de. Quand j'ai eu ma dépression et puis mes problèmes, tous mes problèmes là, qui se sont accumulés pendant 3 ans, j'étais plus le même personnage, et puis voilà, donc les gens, ils ont leurs problèmes, et puis comme on a dit la dernière fois, ça les gaffe, quoi. Voilà. Donc maintenant, donc, je sais que j'aurais pu, impossible à l'avoir au téléphone. Et puis j'avais une autre personne de proche aussi qui ne me répond plus parce que donc on discutait parce qu'elle avait des très graves problèmes de santé, cette personne-là, donc on a échangé. Et puis à un moment donc on ne répond plus. Bon, mais j'ai su qu'un de ses anciens amis me dit non, je ne réponds plus parce qu'il me harcèle. Ah bon, il me harcèle au téléphone alors que j'essaie d'avoir, parce que moi je pensais qu'il était à l'hôpital. Moi voilà, j'arrivais plus à l'avoir.
C'était vous le harceleur ?
Ouais. Enfin non, il a dit que je le harcelais. Parce que je l'appelais. Enfin je ne sais pas pourquoi, mais que je n'avais pas confiance au médecin. Bon, alors ça me fait du mal parce que moi j'appréciais énormément cette personne. Et de toute façon, moi les personnes que je mets sur des piédestals à chaque fois, c'est bizarre, hein, mais. À chaque fois, je suis un peu défaut. Bon, je mettais sur un piédestal, c'était quelqu'un de très bien. Enfin, c'est quelqu'un de très bien. Et puis, ce qui s'est passé dernièrement, il s'est passé une anecdote. Vous m'avez, donc, quand je suis passé à la Libre Antenne, bon, au départ, donc, je vous ai parlé de mes symptômes dépressifs. Hein. J'ai essayé de diminuer tranquillement les doses. De toute façon, il faut revenir à un état normal. Hein. Hein, on est des êtres humains, on ne doit pas être des zombies. Et j'ai eu 4 personnes. Voilà. Donc alors j'ai appelé les 4 personnes sur les jours qu'on suivit, quand Florian m'a donné le numéro de téléphone.
Oui, oui.
J'ai eu Bernadette qui est adorable. Bernadette qui a souffert énormément. Elle est adorable, ce petit bout de femme, elle est adorable, elle se bat, là, c'est fou. J'ai eu quelqu'un qui était un peu. J'ai eu une autre personne au téléphone qui était un peu. Un peu speed, quoi, donc un peu trop speed. Donc,
donc, qu'est-ce que vous appelez un peu speed?
Un peu musique à fond, fofolle, machin. On est tous derrière toi, David, machin. Enfin bon, donc la discussion était un peu.
C'est pas Marie? Marie du Finistère, non?
Non, je sais plus quel est le prénom, peu importe. Donc la discussion était un peu. Une femme, c'était
d'accord.
Que des femmes.
Alors, que des femmes.
La discussion d'accord. était impossible. Après, j'ai eu une autre personne. Bon, la discussion a duré 10 minutes. Bon, j'ai bien vu que. On n'allait pas parler de grand-chose. Et puis, bon. Et puis, j'ai eu une autre personne. Donc, alors, je ne citerai pas. Je ne dénigrerai personne. Comme j'ai dit à Julia, donc votre standardiste.
Ma standardiste, hein, Julia. C'est ma collaboratrice.
Votre collaboratrice, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi du terme. Et donc, je ne dénigrerai personne. Donc, une personne m'a appelé.
Oui.
Au départ, c'était très très empathique. On se voyait, c'était très cordial. C'était quelqu'un qui habitait assez loin de chez moi.
Oui.
Bon, pour moi, de toute façon, dans l'histoire, dans les gens avec qui j'avais des coordonnées, dans l'histoire, il n'y avait pas de question de monter une histoire de relation. Hein. De toute façon, c'était pas le but du jeu. Quoi. Le but du jeu, moi, c'était de rencontrer des gens, notamment proches. Parce que là, je suis tout seul, je suis isolé, donc mes parents, donc je les vois pas. Ils sont adorables, je les vois pas parce qu'ils sont anxiogènes. Et mes amis, maintenant, bon bah voilà, maintenant moi, bah, ils me laissent tomber parce que voilà, je suis plus bout en train que j'étais avant. D'ailleurs, je vais vous dire, vous avez voulu savoir la dernière fois qui c'est que j'ai battu au simulateur. J'ai battu Sébastien Loeb, voilà, comme ça, vous le saurez.
D'accord.
Voilà, j'avais battu Sébastien Loeb au simulateur automobile.
Pas mal. Champion du monde.
C'était sur quand il avait tourné aux 24 heures du Mans, je ne sais plus en quelle année, il avait fait un temps, il s'était vanté de son temps. Et puis moi, je lui dis, attends mon coucou, je dis, moi je veux battre ton temps. Et donc j'ai battu son temps. Voilà.
Mais vous étiez pilote ? Vous étiez
pilote ? Non, je ne suis pas pilote, Donc j'ai été très mauvais conducteur au départ quand j'ai commencé. Et puis après, à force de faire de la simulation automobile, enfin en jeu vidéo, et j'ai eu des jolies voitures et tout ça, donc je me débrouille bien au volant. Je suis pas voilà, je suis pas le fou non plus, mais voilà, je me débrouille très bien au volant, on va dire.
Bon, vous avez battu Sébastien Loeb, mais ça reste que Sébastien Loeb a conduit des vraies voitures sur des vraies routes,
voilà.
Le champion du monde. Donc
c'était le champion du monde.
Dans un simulateur, on prend moins de risques, si vous voulez.
Voilà,
c'est balèze quand même, hein, bravo. Parce que je pense qu'il était très bon
content.
En simulateur.
Voilà, j'étais très content.
Et donc, dites-moi alors.
Alors, cette personne-là, ça, la discussion, j'ai trouvé que ça a dévié, parce que la personne voulait qu'on se tutoie. On s'est tutoyé. Alors, je lui jette pas la pierre, parce que je pense qu'elle a dû réfléchir. On s'est tutoyé. Et ça devenait de plus en plus. Puis moi, au fur et à mesure, je ne me rendais pas compte de la discussion. Je ne sais pas, c'était très agréable, comme s'il y avait une petite alchimie.
Ouais.
Voilà, donc bon.
Ça vous faisait du bien ?
Ça me faisait du bien, et ça levait le voile sur ma. Inconsciemment, je ne me rendais pas compte, ça levait le voile sur ma dépression. Et je me suis même retrouvé un soir, en rentrant, j'avais eu au téléphone, mettre la musique à fond, à chanter, ça ne m'était pas arrivé depuis un moment. Bon. après, donc, on discutait, donc on avait des petits rires et tout, c'était super sympa, on finissait par s'appeler tous les jours, enfin tous les deux jours, hein. Bon. Et puis c'était des petites, après là, voilà, en fin de discussion, c'était des petits, mais bon, j'ai peut-être mal compris, je sais pas, j'ai peut-être été, peut-être monté trop en mayonnaise, c'était des petits bisous très tendres, voilà, bisous, voilà, bon.
Bisous, tu me fais un bisou,
je te fais un bisou. Et puis après, elle voulait qu'on se rencontre.
Oui.
Et bon, j'ai trouvé bizarre, donc j'ai dit, puis on avait commencé, peut-être vers mi-octobre, machin.
Mais c'est bien, je trouve, là, jusque-là, ça, c'est bien.
Jusque-là, ça allait bien.
D'accord.
Et puis un jour, elle me rappelle un soir, parce qu'elle allait manger chez une amie, et puis elle me dit, je t'appelle, parce que j'estime que je dois t'appeler pour savoir comment ça va. Et je dis, écoute, il n'y a pas d'obligation, hein. Si, je dois t'appeler, et tout, machin, voilà. Bon, là, je suis chez une amie, donc je cherchais, voilà, tel truc à manger, bon. Et puis après, demain, je pense que j'ai rien, donc demain, peut-être, enfin peut-être, quoi, voilà, donc je pense, bon. Donc le lendemain, moi, je vais faire une balade en bord de mer, je vois juste une petite photo.
Comme je vous avais dit.
Voilà.
Mais c'est vrai, je vous avais dit, allez marcher au bord de la mer, vous l'avez fait ?
Oui, mais je vais tous les jours.
D'accord,
tous les jours,
super, ça. Très bien.
Sauf le dimanche, où ça s'est très mal passé, là, hein, je peux vous assurer, j'ai fait demi-tour. Et donc, c'était le samedi. Et puis elle me répond, donc, puis après je lui souhaite, donc elle m'envoie un message comme quoi elle allait faire une soirée chez des amis. Donc, bon, je trouvais bizarre que, bon, j'ai pas osé appeler, hein. Moi j'ai pas osé appeler, j'ai pas envie d'étouffer les gens, quoi. Bon, ce qui est normal, moi j'ai connu, j'ai 50 ans, je commence à connaître, j'ai eu beaucoup de relations. Faut pas, dans une relation, voilà, faut y aller doucement, faut pas étouffer.
Exactement,
les gens.
Exactement, vous avez
normal,
raison, faut prendre son temps.
Faut prendre son temps, bon. Et moi j'ai peut-être mal compris d'ailleurs. Et puis là, que je voyais dans le petit, après, dans le dialogue SMS qu'elle m'a envoyé, je voyais, hop, un petit, vous savez, les petits icônes, les petits smileys, pas de bisous, puis un petit signe de la main. Je dis, tiens, c'est bizarre, tiens, bon. Je dis trop rien. Après,
plus de bisous.
Donc, je dis trop rien, je ne rappelle pas, de toute façon, je voulais pas la déranger. J'avais peur de déranger, j'avais peur de mettre les. Voilà, j'ai l'impression de marcher sur des œufs, quoi. Et le lendemain, j'appelle, mais je me doutais. De toute façon, j'ai un sixième sens. Hein. Parce que les femmes ont plus de sens que nous. Souvent, elles sont plus douées que nous. Et puis, j'appelle, donc j'ai le répondeur. Alors, je ne vous dirai pas le message après qu'elle m'a envoyé. Et elle m'a dit, écoute, voilà, j'étais juste là pour te remonter le moral. Je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, donc tu ne me rappelles plus. Voilà, je sais que tu trouveras ton chemin et tout. Voilà, je t'ai coupé du jour au lendemain.
Ah oui ?
Oui.
C'est très bizarre.
Oui, très bizarre. Alors, parce que moi, je lui ai dit, c'est dommage, parce que moi, j'avais l'impression que tu levais le voile sur ma... Voilà. Alors, ça m'a fait énormément de mal, parce que ce jour-là, j'ai reçu le SMS, j'étais sur la route, je m'étais arrêté sur un bord, j'ai discuté avec quelqu'un, puis en même temps, je recevais le SMS, parce qu'il ne faut pas utiliser le téléphone au volant. Et puis, là, quand j'ai vu le SMS, je lui ai dit, ça m'a fait un choc.
Mais vous pensez qu'elle s'est vexée pour quelque chose ou...
Non, je pense que non, je pense qu'elle a...
Parce qu'elle savait qu'au départ, quelqu'un.
Non, elle savait en départ que j'avais été dans un état dépressif,
hein. Oui.
Que je me battais contre ça. Donc après, le fait, je sais pas, le fait de discuter, il y avait une alchimie qui se passait. Ça m'a réveillé, voilà, des choses en moi que j'avais plus depuis des années. Donc ça me faisait du bien. C'est bizarre, hein, comme quoi parfois tout n'est pas mort dans la vie. Et au fond, tout n'est pas mort.
Je vous l'avais dit, ça, c'est que rien n'est jamais définitif, rien n'est jamais arrêté. Vous voyez.
Et donc, le gros choc. Donc depuis, voilà. Alors donc j'ai été entre mes amis. Alors donc plus personne. Voilà, les amis, ils en ont marre. Enfin, et donc voilà, donc plus d'amis, les parents. Donc je les vois moins max. Enfin, je les vois pas, quasiment pas. Donc cette personne-là, après ça se peut la rencontre, on s'était pas rencontré en vrai, hein, évidemment, ça se serait peut-être pas bien passé, hein, j'en sais strictement rien. Mais c'est bizarre, j'avais pour la première fois de ma vie depuis un moment, j'avais vous savez, la petite flamme qui se rallume, je trouvais ça super.
Vous vous êtes appelé pendant combien de temps en fait ?
Pendant 15 jours quoi.
Ah oui, pendant 15 jours, elle vous appelait tous les jours ?
Non, pas tous les jours. Au début, je me suis rendu compte qu'on s'est... Après, j'avais regardé les communications. C'était pas tous les jours. Puis après, c'était quasiment tous les jours. Et puis ça devenait très, voilà, très, très adorable. Les discussions devenaient très adorables et tout. Puis moi, je suis tombé sous le charme. Elle m'a dit en plus, à un moment, donc... vous entendez bien ma voix, là. Elle me dit, tu as une voix... Oh là, alors moi, souvent, les hommes, quand ils ont des voix comme ça... Bon, par contre, elle dit, je n'irai pas automatiquement demander les coordonnées à la personne, mais ça me touche. Donc ça, là, bon.
Oui, elle vous a quand même un peu laissé entrevoir que ça pouvait aller plus loin, quand même.
Puis après, donc j'ai proposé, donc elle m'a dit que je ne pouvais pas aller chez elle par rapport à son lieu d'habitation, mais qu'on pouvait se rencontrer à mi-chemin.
Oui.
Je lui dis, il n'y avait pas de souci. Et puis sinon, donc après, moi j'avais, comme je lui dis, moi j'ai une grande maison, ne t'inquiète pas. Je lui dis, si tu veux venir, t'inquiète pas, il y a une grande chambre dont je ne me sers pas, parce que moi je dors pas dans ma chambre en réalité, hein, je dors dans un gourbi, voilà, je suis comme ça. Je suis un peu bizarre. J'ai une chambre pour les invités, c'est la belle chambre pour les invités. Et donc je lui dis, si un jour tu viens sur la région, c'est bien noté. Bon. Et puis voilà, donc du jour au lendemain. Non, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'elle a réfléchi et puis elle a dû se dire, oh là là.
Ça va un peu, là, c'est en train de s'emballer. Et...
Voilà, puis je vais pas rentrer. Puis c'est quelqu'un qui est, alors que moi, ça me faisait du bien. Voilà. Donc elle s'est dit, c'est quelqu'un qui est dépressif, ça se peut, ça va pas le faire, machin. Donc voilà.
Bon, vous avez bien fait de rappeler parce qu'on va, on va redire que vous êtes enclin à discuter, à échanger. Et si vous qui nous écoutez, vous avez envie de parler avec David, vous entendrez que c'est quelqu'un qui... Parce qu'avec moi, vous n'êtes pas du tout... Enfin, en tout cas, je ne comprends pas que vos amis vous disent que vous êtes embêtant, qu'ils ne vous appellent plus.
J'étais embêtant parce que j'ai discuté avec une amie au téléphone ce soir. Et elle m'a dit qu'elle avait totalement raison. Quand vous avez des soucis de santé, ma mère, en psychologie, moi j'ai fait la psycho, j'ai été éduqué, j'ai vécu avec quelqu'un, ma mère a été pendant 26 ans, ma mère a tout le temps été malade. Ma mère a tout le temps été malade, elle a tout le temps parlé devant moi de ses maladies, ses opérations, machin. Donc j'ai récupéré ça, donc j'ai eu peur de tomber plus tard quand je suis parti du foyer, donc j'ai eu peur de récupérer ses maladies, parce qu'elle a tout eu, hein. Elle a eu plus de 20 opérations. Hein.
Oui.
Et après, donc, quand je suis parti du foyer, mon bon proche, c'est de ne pas aller voir à l'hôpital. Parce que moi, le problème, si j'allais à l'hôpital, j'avais l'impression que c'était la chair de ma chair et que ça me faisait mal. Et en gros, quand elle racontait une opération, quand elle racontait les douleurs qu'elle avait, c'est comme si on me charcutait. Voilà. Donc j'ai entendu ça pendant 26 ans, et puis c'est ce qui m'arrive, moi aussi, c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Voilà, c'est arrivé, moi, 50 ans plus tard, quoi. Et
votre ami, donc ?
Mon ami me disait, oui, voilà, donc ce qui fait fuir tes amis actuels, c'est que tu as tendance à parler, alors c'est pas de parler de moi, c'est de parler de santé, et les gens ont déjà leurs problèmes, et ça, en étant un peu vulgaire, ça les emmerde, et puis au bout d'un moment, ça les emmerde. Et je ne me rendais pas compte. Elle me dit, tu ne te rends pas compte, mais je pense que c'est ça. Et les gens, voilà. Et donc, je pense que c'est pour ça que... ils répondent plus quoi, au téléphone quoi. Voilà.
Bon, faut pas vous dire que cette situation va durer tout le temps, hein, David. Ça va.
Ah non, mais là c'était très dur là. Puis j'ai été prendre des. Bon, j'ai pris. Je voulais sevrer ces saloperies qu'on nous donne, anxiolytiques.
Ne faites pas tout d'un seul coup, hein, David. Depuis un moment, vous prenez, je suppose, un antidépresseur, des anxiolytiques. Allez voir votre médecin. Dites-lui que vous sentez que vous avez envie de lever, enfin, de diminuer petit à petit, et il va vous mettre en place un protocole qui va vous mener vous voyez, il faut, avec ça, c'est sûr qu'à un moment, on peut en avoir marre.
C'est un petit cap que j'ai. Il n'est pas très bon.
Bah, allez voir un médecin généraliste. Vous lui dites ce que vous prenez, et il vous le dira ce que vous pouvez. Arrêter progressivement. Il faut surtout pas arrêter d'un seul coup ces choses-là. Hein.
Parce que là, j'étais tellement mal là que j'ai monté les doses, quoi. Parce que ce qui est très mauvais.
Ce qui est très mauvais parce qu'en plus c'est dans votre tête. Vous voyez. Parce que ça n'atténue pas vraiment. Hein. Ça vous abrutit plus qu'autre chose.
Ça abrutit.
Bon, et donc vous continuez à faire les marches qu'on s'était promis que vous feriez.
Et que le dimanche, là, quand j'ai eu le message, là, c'est la première fois, là, j'ai fait demi-tour sur la route, j'étais sur les fesses, je dis, mais tout me lâche, j'ai même eu des problèmes avec la voiture, je dis, ma voiture va me lâcher, je suis blessé.
David, moi, je vais vous dire ce soir, quand vous me parlez, quatre personnes qui vous ont appelé, votre copine ce soir avec qui vous parliez, votre copain dont vous parliez à la compagne l'autre jour, vous n'êtes pas tout seul, vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas que vous pensiez que à chaque fois que quelqu'un vous dit « t'es chiant », qu'il ne va plus du tout vous parler de votre vie. Parce que les gens ne sont pas comme ça. Laissez là cette période passer un peu, et puis rappelez vous. Vous avez le droit, David, de rappeler en disant « coucou, salut, comment ça va ? Je voulais prendre de tes nouvelles. »
Après, je me suis excusé. Hein. Après, j'ai envoyé des... Mais je pense que j'ai été bloqué au téléphone. Je me suis excusé d'avoir été peut-être en pression, machin, mais je n'ai pas eu de réponse. Non. Je me suis excusé si j'ai été parce que moi je suis très quelqu'un de très poli. Enfin, vous voyez, je suis pas quelqu'un d'agressif. Donc je suis quelqu'un de très poli. J'ai été éduqué, de façon, j'ai jamais insulté mes parents. Donc je me suis excusé d'avoir été parfois trop empressant, mais j'ai pas eu de réponse.
Mais peut-être, vous savez, peut-être que là, à ce moment-là, ils sont dans une période où vous ne savez pas ce qu'ils traversent au sein de leur couple, si ça se trouve. Voilà. Vous savez, les gens, ils ont aussi leurs problèmes. Parfois, vous n'êtes pas là au bon moment, à la bonne période, et tout ça, ça va revenir, ça tourne. Je ne veux pas croire que vous êtes plutôt quelqu'un de gentil, que tout le monde va vous tourner le dos. Ça n'existe pas. Il faut vraiment ça, que vous arriviez à vous mettre ça dans la tête. Ça n'existe pas. C'est juste, là, on rentre dans l'automne aussi. Les gens sont un peu moroses.
Le Covid a fait du mal parce qu'on n'a pas vu de sourire pendant 2 ans.
Oui, mais il y a quand même des gens qui continuent à sourire. Vraiment, continuez à aller faire vos balades. Continuez. Je pensais à un truc l'autre jour, je pensais à vous justement, et je me disais, pourquoi vous achetez pas un chien ou un...
Ouais, parce que voilà, alors le problème... c'est que j'ai du mal. Bon, je me lève, si je vis à peu près bien, je me lève de plus en plus tôt, on va dire. Mais le chien, voilà, il va falloir ça va me faire une sacrée responsabilité, il va falloir le sortir, machin. Bon,
c'est vite fait. Vous êtes où ? Vous êtes à la campagne ?
Non, je ne suis pas à la campagne, je suis en ville, quoi.
Mais vous êtes en appartement ?
Je suis en maison.
En maison ? Ouais. Bon, il y a un petit jardin ?
Oui, un petit jardin.
Ouais. Le chien, là, vous ouvrez la porte, il va faire ses petits besoins, il revient. Mais non, mais je vous dis ça parce que vous baladez, les gens qui ont d'autres chiens, ça permet de lier le contact,
je vois bien que les gens lient le contact avec les chiens.
Parce que si vous aimez les chiens, je vous dis ça parce que c'est vraiment... je vois les gens qui ont des chiens à Paris, je trouve ça incroyable. C'est une performance, hein, parce qu'avoir un chien en appartement à Paris, et pourtant, il y en a pas mal de chiens à Paris, je trouve, en tout cas, je vois pas mal de gens qu'on a. Et je peux vous dire que je les vois sur le trottoir, et comment ça va, tatati, tatati, titi, qu'est-ce qu'ils mangent comme croquettes, et bim, et bam.
Voilà, voilà.
Et après, les enfants, bah, 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 et ça finit par créer des liens. Vous voyez, il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Comment créer du lien? J'ai envie de créer du lien. Comment le créer? Voilà. Et moi,
après,
j'ai
du mal à faire lancer des sorties. Avant, je lançais beaucoup de sorties sur les sites de sorties. Puis là, je suis bloqué. Hein. Je suis un peu bloqué dans l'ordinateur.
Ouais, mais regardez, avec cette dame qui vous appelait, vous étiez prêt à faire la moitié du chemin pour aller la rencontrer. Donc, je pense que vous vous mettez ça dans la tête, que vous êtes un peu bloqué, que vous avez du mal à organiser. Parce que je pense que si vous rencontrez des gens qui sont simples, tranquilles, sympas, vous n'aurez pas de mal à proposer. Ces choses-là se font naturellement. Vous avez raison de vouloir lever le pied et diminuer les benzos, là, pour avoir une plus grande conscience. Hein, tous ces trucs-là, ça embrouille un peu l'esprit.
Ah oui, c'est une saloperie. C'est du valium.
Hein, vous voyez, il y a Fatih qui nous envoie son numéro et qui souhaite dialoguer et échanger avec vous. Donc, vous voyez, tout ça est un éternel recommencement, David.
Recommencement, ouais. Hein, ouais, ouais.
Donc, ne vous dites pas, c'est bloqué, c'est... D'accord ?
Ouais. S'il y a des gens qui veulent aller marcher, ne serait-ce que marcher, moi je ne demande pas grand-chose. Parce qu'il s'est passé que la personne, la dernière fois, ce n'était pas prévu. Hein. C'était la femme qui était assez loin de chez moi, là, ce n'était pas prévu du tout.
C'était pas prévu. Vous avez appelé Europe 1, puis elle vous a appelé. Donc vous m'étonnez que ce n'était pas prévu. Mais vous voyez comme quoi la vie réserve des imprévus. En tout cas, je vous souhaite plein de courage. Et puis n'hésitez pas à nous donner de nouvelles. D'accord ?
S'il y a des gens qui veulent voir. Donc,
vous voyez, Fatih, puis ça va enchaîner là.
Voilà.
Okay.
Je vous remercie.
On vous embrasse,
Olivier.
Et bon courage.
Ouais, ouais,
et continuez la marche.
Bon
hein.
Courage à vous aussi. Oui, oui.
Et n'oubliez pas, vous savez, si vous devez acheter un chien, l'achetez pas, allez à la SPA. Il y a plein de chiens ultra sympas qui vous attendent. Hein Ça se trouve, vous allez repartir avec deux chiens. N'achetez pas, adoptez des chiens. S'il vous plaît, vous toutes et vous tous qui nous écoutez, si vous avez envie de chiens, de chats, franchement, je suis allé à la SPA l'autre jour en banlieue parisienne. Mon Dieu, je suis reparti avec 10 chiens, quoi. Donc, on est reparti avec un, déjà. Voilà. Donc, on vous embrasse et réfléchissez à ce que je vous ai dit. D'accord ?
Ok, d'accord. Okay.
Hein, courage à vous, David. Ne baissez pas les bras, David. Hein ?
Ok, merci.
Allez, courage. Salut. Bye.
Merci,
on accueille Marie, maintenant, au 39-21. Bonsoir, Marie.
Ah, bonsoir, Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Marie ?
De Bordeaux.
De Bordeaux. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène ? Dites-moi.
C'est un peu particulier.
Oui.
Alors, je vais être familière. Je suis trop bonne, trop conne. Et je voudrais savoir pourquoi. Si pour être aimée, pas du tout.
Alors, qu'entendez-vous par trop bonne, trop conne ?
Il y a un couple d'amis qui est venu la semaine dernière. La jeune femme m'a demandé plein de choses et moi je lui ai donné. Comme si j'avais de l'argent.
Il vous a demandé quoi ? Vous lui avez donné quoi ?
Un étendoir.
Un étendoir.
De la nourriture. Après des cosmétiques. Hein. Et puis moi, je donne comme si je disais reste du cœur, quoi. En gros.
Est-ce que, Marie, est-ce que je peux vous demander de ne pas parler trop près du téléphone parce que j'ai du mal à. Le son est un peu étouffé.
Oui.
D'accord ?
Oui.
Donc vous.
Là, ça va mieux ?
Un petit peu mieux. Donc, du coup, vous lui avez donné un étendoir, et il ne vous l'a pas rendu ?
Non, je ne l'ai pas donné. Je lui ai donné plein d'autres choses, des cosmétiques.
Des cosmétiques, d'accord.
Oui, elle me demandait du parfum, je lui ai dit non. Et des odeurs, je lui ai donné ça. Non. J'ai donné plein de choses. J'ai pas d'argent, et elle le sait, ben, je pense. Et la question, c'était, est-ce que je fais ça pour être aimé ? Je comprends.
La question, Vous, oui. Vous l'avez posée, là. Vous la posez parce que vous êtes avec moi, là, et vous êtes en confiance.
Oui.
Je vais vous la poser.
Oui.
Est-ce que vous faites tout ça pour être aimée, Marie ?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas ?
Non.
Est-ce que vous donnez par bon cœur ou vous passez vos affaires par bon cœur ? Est-ce que vous attendez c'est quelque chose ?
Non, j'attends rien. C'est du bon cœur, mais à mon détriment, quand même.
Bah, tout dépend si l'étendoir, il l'a depuis 6 mois ou 1 an. Vous lui avez donné quand, cet étendoir ?
Non, je ne l'ai pas donné.
Non, mais vous lui avez prêté quand ?
Non, je ne l'ai pas prêté non plus. Ah,
d'accord. Donc, vous avez fait quoi non, avec l'étendoir ?
Rien. J'ai refusé.
Ah, vous avez refusé ?
Oui.
Ah, bah, je pensais que vous lui aviez donné, moi, ou prêté.
Pardon, non. Mais je lui ai donné plein de choses. Et...
C'est une fille, un garçon ? C'est une femme ?
Oui, c'est une femme.
C'est une amie ? C'est une copine ?
Ben, c'était une amie, mais je crois que c'est plus une amie.
Et pourquoi ça ?
Parce que je veux plein de choses que j'aurais pas dû, mais c'est de ma faute. Hein.
Eh oui, mais... Vous m'appelez et puis vous me dites « je lui ai donné des cosmétiques et tout ça, et puis c'est plus mon amie. » Pourquoi ? Parce qu'elle ne vous a pas dit merci ? Parce que... Pourquoi ?
Non, je suis en tort et est-ce que vous avez un avis ? Pourquoi je fais ça ?
Ah ben, un avis, c'est compliqué d'avoir un avis, là, parce que vous...
J'ai dit à Florian que je suis trop bonne, trop conne.
Oui.
Mais est-ce que c'est pour être aimé ou autre chose ou, je sais pas, à votre avis.
C'est compliqué.
Oui.
Vous lui donnez ces cosmétiques pourquoi en fait ? Parce que vous en avez trop ?
J'en ai, elle me l'a demandé, mais... Je suis pas un supermarché non plus.
Ben non, d'accord, mais vous en avez beaucoup des cosmétiques ?
Bon, j'en ai.
Vous en avez ? Bon.
Oui.
Donc quand elle vous les a demandés,
oui.
Vous lui avez donné pourquoi ? Parce qu'elle vous les demandait.
Voilà.
Parce qu'elle avait, elle en avait besoin.
Besoin, je ne sais pas. Je n'ai pas d'argent et. Besoin, je ne sais pas. Oui.
C'est compliqué votre affaire. C'est un sac de nœuds, cette affaire, parce que vous avez l'air de dire que cet ami, c'était votre ami, et puis maintenant, c'est plus votre ami parce que vous lui avez donné quelque chose. Elle vous donne jamais rien, cet ami ?
Non.
Il faut lui demander des choses.
Je ne sais pas faire ça.
Ouais, mais bon, ça c'est très compliqué votre histoire là.
C'est dévolu.
Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette amie ?
Elle ne travaille pas, elle est en invalidité.
Elle est en invalidité ? Et vous faites quoi ?
Pareil,
invalidité aussi.
Oui.
Et vous habitez dans la même cage d'escalier ?
Ah, pas du tout. Non ?
Non,
vous... pas du tout. Non.
Vous habitez loin l'une de l'autre ?
Non, je ne sais pas, 10 ou 15 kilomètres.
Donc. D'accord, ok. Donc vous n'êtes pas obligé de la croiser demain ?
Non, sauf quand elle vient sans prévenir, et ce qui est arrivé la semaine dernière.
D'accord. Et là, c'est la semaine dernière que vous lui avez donné ses cosmétiques ?
Oui.
Uh-huh.
Entre autres, oui, plein de trucs.
Qu'est-ce que vous lui avez donné d'autre ? Allô ?
Oui,
Marie. Vous êtes là ?
Je réfléchis, oui.
Qu'est-ce que vous lui avez donné d'autre ?
Non, des cosmétiques, oui.
Que des cosmétiques ? Donc, vous en avez un paquet de cosmétiques, visiblement ?
Non. Elle m'a demandé, tu as du parfum ? Non.
Mais elle vous demande comment les cosmétiques ? Elle va dans la salle de bain, elle dit Ouh là là, t'as beaucoup de cosmétiques, Marie, tu voudrais pas m'en donner un peu ?
Elle m'a demandé du parfum, je lui dis non.
Oui.
Après, du déodorant, je vais l'enlever.
Oui.
Et voilà, des trucs comme ça.
Mais... Et quoi d'autre ?
Peut-être du gel douche.
Ah, du gel douche aussi.
Oui. Mais oui.
Elle est sacrément gonflée, hein, votre copine.
Et aussi, bah, comment oui. Je suis vraiment trop conne. Et qu'est-ce que je pourrais faire ou pas ?
Bah, là, vous vous posez quand même bon nombre de questions, ma chère oui. Marie. Vous n'avez pas l'air d'être très à l'aise avec le fait que cette personne vous demande beaucoup de beaucoup trop de choses finalement, parce que je vais vous dire, par exemple, elle vient chez vous comme ça, et puis vous passez un moment ensemble, vous discutez toutes les deux, et puis d'un seul coup elle vous dit: dis donc Marie, tu voudrais pas me donner un peu de gel douche, et point barre, c'est tout. Là vous dites, bon, elle me demande que du gel douche, ça va. Mais là, visiblement, elle vous demande du gel douche, elle vous demande du parfum, elle vous demande des crèmes, elle vous demande tout un tas de choses, donc ça ne va pas. Donc, cette personne est un peu sans gêne, de mon point de vue. Et vous devriez marquer le coup. Alors, marquer le coup, il y a plusieurs façons de marquer le coup. Soit... vous lui dites ce que vous avez sur le cœur. Est-ce que vous vous en sentez capable de lui dire ce que vous avez sur le cœur ?
Non.
Ah bah oui, mais Marie, il faut que vous m'aidiez un petit peu, parce que là, vous ne voulez pas lui dire, vous voulez rien lui dire, vous me dites trop bonne, trop conne, et puis...
Oui.
Bah oui, mais bon, il va falloir que vous décidiez à faire quelque chose si vous n'êtes pas vraiment contente de cette situation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ?
Oui, mais j'ai du mal.
Hein ? Vous avez du mal ?
Les personnes.
Oui.
Je sais pas
comment, mais... oui. Vous savez pas trop, en fait, hein ?
Non, je ne veux pas. Je n'ose pas critiquer les personnes.
Non, mais. Ce n'est pas question de critiquer qui que ce soit, c'est-à-dire. Vous m'appelez ce soir et vous me dites, moi, oui. Je ne suis pas contente parce que ma copine vient chez moi et puis elle me demande des cosmétiques, vous m'avez dit. On va faire le package, hein, parce qu'on ne va pas répéter à chaque fois.
Oui.
Hein et donc, du coup, vous semblez maintenant embarrassée par cette situation.
Ah ben.
Donc, vous m'appelez pour me demander conseil.
Oui.
On est d'accord ?
Oui, oui.
Donc, moi, je vous soumets plusieurs options. Soit, si vraiment vous avez l'impression que votre ami vous prend pour une cruche qui peut donner comme ça... Bon, bah, si vous avez cette impression-là, il faut arrêter avec cet ami. Hein ? Parce que visiblement, vous avez perçu qu'elle vous prenait un petit peu pour un distributeur à cosmétiques.
Entre autres, oui.
Qu'est-ce qu'elle vous a demandé d'autre ?
Oh, les tendoirs, une cigarette, pardon.
Le quoi ? J'ai pas compris.
Les tendoirs, une cigarette...
électronique ?
Non, une vraie. Enfin,
ah, juste une cigarette. Oui, bon, ça, c'était pour la soirée. Donc, elle vient les mains dans les poches chez vous et puis elle veut plein de choses.
Voilà.
Bon.
Voilà.
Oui.
Alors, est-ce que, à votre avis, pourquoi je fais ça ?
Pourquoi vous faites ça ? Eh ben moi, je crois que c'est parce que vous avez bon cœur, déjà. J'entends que vous êtes une personne qui est gentille. Donc quand, vous savez, il y a plein de personnes qui sont comme vous. Quand ils ont affaire à quelqu'un qui pousse un peu, hein, qui met le pied dans la porte, comme on dit, voyez, et puis qui est un peu sans gêne, qui demande... Ah bah, tu peux pas me passer ça, tu peux pas passer ci, et puis ta crème, elle est bien, là, elle est douce, oh, elle sent bon ta crème, et tu pourrais pas m'en passer. Il y a des personnes qui osent faire ça, et qui manquent un peu d'éducation, voyez-vous. Et puis, bah, vous, face à ce genre de personne qui est sans gêne, finalement, eh bien, vous avez du mal à résister, vous avez du mal à dire ce que vous pensez. Parce que le problème, il est là, Marie. C'est que vous n'osez pas dire ce que vous pensez. Et pourquoi ? Ça, J'aurais du mal à vous le dire. Parce que ça, vous savez pourquoi vous avez du mal. Peut-être parce que vous êtes timide. Peut-être parce que vous n'avez pas envie de la heurter. Vous vous dites, ben non, mais moi, je ne veux pas la critiquer. Mais bon, en attendant, elle vous demande plein de trucs. Ça ne vous plaît pas. Ça vous pose problème.
Non, j'ai réfléchi et ça ne me plaît pas du tout.
Mais non, j'ai compris. J'ai compris que ça ne vous plaisait pas du tout. Oui. Mais dans ce cas-là, il ne faut plus lui donner de nouvelles. Stop.
Hein? À votre avis, est-ce que j'ai fait ça pour être aimé?
Et quand on... être aimé, je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Est-ce que on vous a déjà dit, Marie, t'es trop généreuse. Tu donnes tout ce qu'on te demande et puis voilà, t'as l'impression qu'en donnant on va t'aimer, mais tu te trompes. Est-ce que vous avez des gens de votre entourage qui vous ont déjà dit ça?
Qui vous disent oui que je donne oui.
Que vous donnez facilement.
Oui. Alors que j'ai pas d'argent. Mais bref.
Ouais, vous n'avez pas beaucoup d'argent?
Non.
Combien vous avez d'argent par mois?
Je suis en invalidité. J'ai une allocation, je ne travaille pas.
Oui, mais donc vous ne pouvez pas travailler, donc ça vous fait combien par mois, ça?
Je suis sous curatelle, en plus.
D'accord, vous êtes sous curatelle, donc vous ne gérez pas votre argent.
Non, c'est très, très, très difficile. Et malgré ça, je donne. Voilà.
Ben oui, mais vous voyez, si vous êtes sous curatelle, c'est pour gérer un peu tout votre argent. Parce qu'autrement, vous donneriez peut-être de l'argent aussi.
Ah, de l'argent, non. Mais je crois qu'à
un moment, s'il y a une personne qui s'y prend bien, qui vous manipule, comme cette dame a l'air de vous manipuler, elle a bien compris que Marie... on pouvait l'avoir comme ça, un peu au sentiment qu'elle avait envie d'être aimée ou de ne pas être seule aussi. Parce que c'est aussi souvent ça dans la vie, quand on est seul, quand on a un peu du mal, quand on trouve quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir quand il nous demande quelque chose. On n'a pas envie qu'il s'en aille, on n'a pas envie qu'il soit blessé, on n'a pas envie qu'il se vexe. Donc oui, vous faites sans doute ça pour toutes ces raisons-là, Marie. Et il faut faire attention, parce que vous êtes maintenant... une grande personne et que non, le non, ça fait partie de votre vocabulaire et ça ne veut pas, ça n'est ni une insulte, ni ça n'est ni méprisant, ni blessant, mais on a le droit de dire non, gentiment. D'accord ?
D'accord.
Je vous embrasse, Marie. Je vous embrasse et courage à vous, faites attention à vous. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bien évidemment, on se retrouve demain à partir de 23h, comme tous les soirs de la semaine. La semaine avec nous, le week-end avec Yann Moix. La libre antenne, c'est votre émission. Vous vous rappelez de ça? Vous êtes nombreux sur la page Facebook. Vous êtes 17 741. Ça commence à monter. Donc partagez encore cette page. Ça peut rendre service à bon nombre de personnes. Vous avez entendu David tout à l'heure. Il y a des gens qui ont besoin de lier, de faire du lien. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas qu'ici on vous aime fort. On vous dit à tout à l'heure, 23h. Faites de beaux rêves. Passez une belle nuit. Salut.